France. Intuitive et agréable d'utilisation, écoutez ou podcastez vos émissions préférées et retrouvez France Inter, France Info, France Culture, France Musique, FIP, Le Move, France Bleu et ses 44 radios locales. À télécharger dès maintenant sur votre mobile. Plus d'informations sur radiofrance.fr. France Inter. La voix est libre.
Et il est exactement 15h04. On retrouve là-bas, si j'y suis, avec Daniel Mermet.
Passation de pouvoir. Aujourd'hui à 15h. Ils ont osé le faire quand même, ils l'ont fait. L'entrée de Manuel Valls à Matignon, un 1er avril. Et en plus, ironie du sort, à l'heure de la Bastille, dis donc. Valls rentre à Matignon. C'est pas beau ça?
Le compliment. En entendant le compliment, il crut avoir eu du génie. Il est en effet gratifiant d'entendre.
Mon chéri, j'ai joui.
Hélas! Les femmes sont par nature envers les hommes très habiles, machiavéliques aux entournures.
C'était un poisson d'avril.
C'était Georges Philippe.
Et Francine. Salut.
Et dire que chaque fois que nous votions pour eux, nous faisions taire en nous ce cri, ni Dieu ni maître, dont ils rient aujourd'hui, puisqu'ils se sont fait Dieu, et qu'une fois de plus, nous nous sommes fait maître. C'était Thibaut de Rouen.
Bonjour, nous sommes le 1er avril 2018 et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui dans notre émission littéraire un ancien président de la République, M. François Hollande, pour la parution de son autobiographie, préface de Manuel Valls, intitulée « Comment j'ai tué le Parti Socialiste ». Ça pourrait être un canular ou de la science-fiction. C'est juste une escroquerie. Un abus de confiance qui touche 18 millions de personnes et sur le plan de l'éthique, une vraie, une authentique saloperie. C'est Eric de Toulouse.
Bah vous êtes sévère, hein. Moi, je regarde là-bas la télé, la passation de pouvoir, ça va être bien, ça n'a pas commencé, je vous le dis, hein. Bon, ça va peut-être durer encore un certain temps, donc d'ici là, vous pouvez écouter là-bas si j'y suis. Voilà, on est ensemble jusqu'à 16h. Ou presque. Et aujourd'hui, on s'intéresse à ce que l'on peut lire dans le monde diplomatique, le mensuel Le Monde diplomatique. Vous savez que chaque mois, depuis de nombreuses années, nous nous retrouvons avec cette fine équipe. Et là, aujourd'hui, c'est chaleureux et c'est varié. Avec, d'abord, on va faire quelques commentaires sur les... Vous savez, il y a eu des élections dimanche dernier, non? Bon, bah voilà, vous allez apprendre deux, trois choses à ce sujet. Gilles Balbastre va nous parler travail détaché, travailleurs enchaînés. Vous savez, l'Europe, le plombier polonais, ça nous intéressait il y a quelques années. Voilà quelques effets de ce travail low cost. Anne-Cécile Robert va nous parler de l'atlantisme, comment c'est l'histoire du caniche qui voulait être caniche à la place du caniche. Serge Halimi s'intéresse à la Tunisie, il s'y intéresse beaucoup, Serge Halimi, à la Tunisie. Et il fait le bilan, la situation de ce pays qui, vous le savez, s'est donné une constitution qui a apporté un certain apaisement dans ce processus révolutionnaire dans lequel ce pays est entré. Jean-Pierre Serigny, lui, s'intéresse à l'Algérie, voisine. Alors en Algérie, rien ne change, selon Jean-Pierre Serigny, à part quand même, si, une chose, la société. Et puis, on finira avec Jacques Testard. Jacques Testard, lui, c'est la procréation médicalement assistée, PMA. Alors jusqu'où peut-on aller et jusqu'où sommes-nous en train d'aller dans ce domaine, si vous faites partie comme moi de ceux qui n'y comprennent rien à ce domaine, eh bien Jacques Testard va nous éclairer et drôlement bien. Voilà ce qui va se passer dans la base où j'y suis jusqu'à 16h ou presque. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Bonjour, je viens d'entendre l'émission sur les vignerons et les maladies. Alors voilà, mon père est décédé d'une leucémie lymphoïdique chronique, c'est-à-dire une leucémie des lymphomes, suite à l'ingestion de produits de traitement par la peau, par les bronches. Pendant toute sa carrière, il a traité, il y a eu une lente agonie, surtout les deux dernières années. Et le pire, c'est que Bayer, qui l'a donc tué avec ses produits de traitement, était aussi le producteur des médicaments qui le maintenaient un peu en vie pendant quelques années. Je peux quand même dire qu'il m'a redonné une seconde vie, puisque aujourd'hui, moi, je suis aussi vigneron et j'ai pris sa suite. Mais je suis en conversion bio depuis son décès. C'était Michel du Muscadet.
Bonjour là-bas, si j'y suis, je suis vigneron. Nous, dans les Côtes-du-Rhône, c'est vrai qu'il y a aussi des produits, il y a aussi des abus, mais il y a aussi des vignes vivantes. Il y a des vignes où on peut manger par terre parce qu'on ne craindra rien. Il y a des vignerons bio, la coopérative de Saint-Pantaléon-les-Vignes, nous sommes 12 coopérateurs bio et on est bien, on est à l'aise dans notre production. Et il n'y a pas que des vignes mortes, il y a des vignes vivantes. Le problème qu'on a chez nous, c'est que souvent le vignoble, ça fait acheter par des négociants, des gens qui ont beaucoup plus d'argent que nous. Ce foncier nous échappe petit à petit. Pas besoin d'aller au Brésil, on peut trouver ça en Drôme provençal. Des grands négociants qui achètent des parcelles, qui achètent des propriétés et des petits vignerons qui s'accrochent pour continuer à vivre de leur travail. Merci pour vos émissions de manière générale.
Bonjour, je viens d'entendre parler le nouveau maire de Grenoble. Ouf, ouf, ça existe alors, des gens qui ne veulent plus que les goinfres s'en mettent partout, là. Merci, merci aux électeurs. Bonne journée à tous.
Chers auditeurs modestes et géniaux de Nîmes et ses environs, dimanche, toute la gauche parlementaire électoraliste, nationaliste, patriote, corporatiste s'est prise une raclée électorale sans précédent. Et c'est tant mieux. On va enfin passer à une autre méthode. Et afin de ne pas attendre l'an 2050, année où peut-être cette gauche serait majoritaire pour appliquer son programme bricolo opportuniste, on se retrouve tous au repère de là-bas si j'y suis, le mercredi 2 avril à 19h au café Les Ramblas, 40 boulevard Gambetta à Nîmes. Avanti tutti. A bientôt, Roland Dugard.
Salut, c'est Daniel Mermet, et là-bas si j'y suis avec l'équipe du Monde Diplomatique.
Flight number 2, arriving from New York.
Une fois que c'est fait, nous on a fait du terrain avant que ça se passe, c'est quand même mieux.
Bon, on commence ou on continue de bavarder comme ça, Serge? Halimi, les auditeurs se disent « Ah, oh, qu'est-ce que le diplo pense des... » résultats des élections.
Je ne sais pas si c'est ce que le diplo lui-même pense, mais il me semble que ces résultats ne sont pas absolument inattendus. Certains de vos auditeurs se souviennent peut-être qu'il y a une vingtaine d'années, en 1993, après que le Parti socialiste ait mené une politique économique et financière de droite, il avait perdu les 4/5 de ses sièges à l'Assemblée nationale. Et plus généralement, quand un parti de gauche mène une politique de droite, jamais il ne satisfait la droite, qui estime que ça n'est pas assez, et il démobilise sa base, qui se dit que ce n'est pas la peine de se déplacer pour entériner des orientations qu'ils avaient rejetées 2 ans plus tôt. Alors là, maintenant, la question qui peut se poser, en dehors même d'une simple analyse de ces résultats, c'est que le Parti socialiste est un parti assez largement composé d'élus, de notables, que là, ils ont perdu beaucoup de villes, qu'ils risquent de perdre des agglomérations très bientôt. Un an plus tard, ce sera les régions, la perte du Sénat. Donc il y a peut-être un moment où les élus socialistes, qui composent une bonne partie donc des adhérents du parti, vont en avoir assez
des de politiques perdre leur gâteau.
Non, des politiques économiques et sociales qui les mènent à l'abattoir électoral. Et il est possible qu'à ce moment-là, François Hollande n'ait plus la même facilité que celle qu'il a connue ces 2 dernières années pour faire tout en fonction de ses impulsions du moment et en reniant la plupart de ses engagements électoraux. On s'en souvient sur l'Europe, où il devait en quelque sorte réorienter l'Europe en renégociant le pacte de stabilité qui a été entériné sans qu'on y change une virgule. Les orientations commerciales, où François Hollande voulait qu'on accélère le pas pour le traité de libre-échange transatlantique. Donc sur toutes sortes de dossiers, la distinction entre une politique de gauche et de droite n'est pas apparue et le résultat électoral est au fond ce qu'on pouvait attendre. Maintenant, reste à savoir jusqu'à quand les militants du Parti socialiste, les élus du Parti socialiste accepteront d'être ainsi sacrifiés.
Dans le papier de Gilles Balbastre, qui s'intitule « Travailleurs détachés, travailleurs enchaînés », Gilles, vous décrivez
tout d'un coup des militants du Front National qui montent sur un toit, c'est ça ?
Oui, ce qui est intéressant dans ce qui s'est passé dimanche, je pense que c'est aussi parfois une réponse à une certaine duplicité, à une certaine forme de communication qui veut cacher au fond une réalité qui, elle, a de moins en moins de possibilités d'être cachée aux gens. Et l'histoire des salariés détachés et travailleurs détachés à Dunkerque, dans l'un des plus grands chantiers de France, hein, qui est le chantier du terminal méthanier de Dunkerque, montre effectivement qu'on ne peut pas longtemps tenir un discours de duplicité. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Vous vous rappelez, à la fin des années 2000, la fermeture d'une raffinerie Total. Sarkozy est arrivé et a promis, un peu comme à Hayange, qu'il y aura de nouveau du boulot et que la raffinerie sera remplacée par du travail avec l'installation d'un terminal méthanier. Alors, entre parenthèses, le terminal méthanier va employer 50 à 60 personnes, la raffinerie en employer 350. Vous voyez déjà que c'est pas tout à fait le même ratio, et que même si le peuple est un peu idiot, il sait compter. Et entre 50 et 350, il voit déjà qu'il y a un décalage de 300. Et sur le terrain, 300, c'est 300 familles qui vont se retrouver au chômage, ne pourront pas faire des tas de choses. Le terminal méthanier arrive et il est vendu par les politiques locaux, par les institutionnels, par la préfecture, par tout le monde, par Pôle emploi, comme quelque chose qui va redynamiser l'emploi local dans une région qui souffre, puisque Dunkerque a à peu près plus de 14% de chômage. Alors que, paradoxalement, c'est quand même un des endroits en France où il y a le plus d'entreprises. Il y a 15 usines Seveso2 à Dunkerque. C'est un des plus grands ports de France. Donc il y a une industrie encore très importante, mais il y a 14% de chômage. Et on va en arriver, effectivement, pourquoi il y en a ? Parce que le travail est entre entrepris par les salariés détachés, par les travailleurs étrangers. Qu'est-ce qui se passe donc ? Publicité énorme. Il y a même un grand raout qui est fait, ça s'appelle le Cursal, c'est le palais des congrès de Dunkerque, avec une association présidée par le maire, enfin, je dirais maintenant l'ancien maire, puisqu'il a été battu dimanche, Michel Delbar, par Pôle emploi. 1500 personnes viennent et pensent qu'ils vont avoir du travail. Et la réalité, c'est tout à fait autre chose. Sur 1300 salariés actuellement, il y a plus de 60%, 65% de travailleurs détachés, c'est-à-dire d'Italiens, de Portugais, de Roumains. Donc si vous voulez, les gens localement, ils voient la publicité, la communication qui vante la grande réussite. Et la réalité, c'est pas ça. Donc vous voyez, il y a un décalage à un moment donné. Le terminal méthanier, je dirais, c'est presque l'arbre qui cache la forêt. En faisant cette enquête-là, je me suis aperçu que on avait eu une petite focalisation autour de ce terminal méthanier. Hein. Vous avez raison. Pourquoi il y a eu une focalisation ? Grosso modo, ça serait passé sans qu'il y ait quelque chose de la part des médias. C'est parce que la CGT s'est battue, a fait des tractages et tout, mais localement, la Voix du Nord en parlait un peu, mais nationalement, ils n'en parlaient pas. Il a fallu que 15 militants du Front National montent sur le toit de la CCI, de la Chambre de commerce et d'industrie, déploient une banderole avec l'emploi pour nous, pour que les médias se réveillent. C'était au mois de décembre, la campagne des municipales, et parce que le FN est un bon produit médiatique, il faut mettre constamment en avant. Quand c'est la CGT qui le fait, on le fait pas, avec la CGC par exemple. Quand c'est le FN, on le fait. C'est pour ça. Alors il s'est trouvé à cette époque que effectivement on était fin décembre, que le père Hollande, il avait dit que la courbe du chômage baisserait, qu'elle baissait pas. Donc Sapin est venu. En plus, il y avait une négociation à Bruxelles sur la directive des salariés détachés. Donc tout ça a fait un petit cocktail médiatique.
ASTV, le ministre de l'Intérieur et le ministre du Travail effectuaient ce matin une visite surprise au terminal méthanier de Lonne-Plage, où la forte proportion d'ouvriers étrangers a fait débat ces dernières semaines.
19 décembre 2013.
Pour être efficace, il faut être sur le terrain, il faut être dans le concret.
Michel Sapin.
Mais il faut aussi disposer des moyens juridiques.
Ministre du Travail.
Parce qu'il ne suffit pas de constater, il faut pouvoir poursuivre. Et je peux vous annoncer qu'aujourd'hui même, une proposition de loi est déposée qui crée de nouvelles dispositions en France. C'est très important parce que ça va obliger les donneurs d'ordre à vérifier le plus possible la légalité de ceux qui travaillent pour leur compte.
Mais la réalité quand on enquête, c'est que le chantier du terminal méthanier est l'arbre qui cache la forêt. Parce que toutes les entreprises de Dunkerque, les multinationales utilisent par centaines des travailleurs détachés. Alors, travailleurs détachés, on n'a pas expliqué qu'est-ce que c'est. Un travailleur détaché, c'est un donneur d'ordre local, prend un sous-traitant, qui peut être un sous-traitant français, qui va prendre un sous-traitant étranger, et sous couvert de la directive européenne de 1996, il a la possibilité de faire appel à une boîte étrangère, qui va faire venir des salariés du pays en question. Pologne, Roumanie, Italie, Portugal.
Oui, c'est le cas dans plein de domaines, le transport par exemple.
C'est le cas dans la construction, en tête, c'est le cas dans l'industrie, c'est le cas dans l'agriculture. Il y a officiellement 150 000 salariés détachés, officieusement il y en a plusieurs centaines de milliers. Parce que bien entendu, vous imaginez bien que les boîtes se gardent bien étrangères d'envoyer un document qui est obligatoire normalement, qui s'appelle un document de détachement à l'inspection du travail. Ils ne le font pas. Donc, ces entreprises-là étrangères envoient des salariés qui, entre guillemets, doivent être payés avec les salaires du pays en question et avoir les droits des salariés du code du travail du pays où ils vont travailler. Et les cotisations sociales sont payées, par contre, dans le pays d'origine. Alors vous imaginez bien déjà que le dumping social se joue énormément avec des pays comme la Roumanie ou la Bulgarie où les cotisations sociales sont très basses, notamment patronales. Et donc vous avez des gens qui voient constamment dans leur boîte des travailleurs détachés qui ne peuvent rien dire. Pourquoi ? Parce qu'on leur fait leur chantage. Si vous n'acceptez pas ces salariés détachés, on ferme la boîte. C'est la délocalisation dans l'Hexagone. Donc si vous voulez, les gars, au bout d'un moment, ils encaissent. Metal Europe, Arcelor, il y a un chantier qui s'appelle le chantier Arnaud, chantier de réparation navale. 180 salariés, il y a entre 70 et 80 Polonais constamment dans cette boîte. Constamment. Il y a eu un mort en 2010, un mec paralysé en 2007. Tout le monde ferme sa gueule. Et donc, qu'est-ce que vous voulez que fassent les salariés des chantiers Arnaud ? Ils acceptent, on leur dit de se taire, mais ils se vengent. Soit ils s'abstiennent, soit ils votent FN. Et si Michel Debarre a perdu à Dunkerque dimanche et s'est pris une ratatinée, puisqu'il a fait 26% simplement, la cause est peut-être en grande partie là, des milliers de travailleurs détachés chaque année à Dunkerque. Alors, qui logent dans des campings, dans des mobil-homes, à 3 ou 4 dans des logements. Là, sur les chantiers Arnaud, un soudeur polonais me racontait qu'il dormait dans une chambre minable d'un hôtel et ils avaient deux lits pour trois. Deux lits pour trois. Et ils se partageaient le lit en 2-8. Celui de nuit occupait le lit de celui qui a travaillé le jour. Comme dans Germinal de Zola, vous vous souvenez ? Le lit qui est partagé par ceux qui travaillent la nuit et le jour. Et bien là, c'est pareil. Et on est en France. Et on est en 2014.
Oui. Oui, il faut peut-être ajouter que, puisque Gilles évoquait la contradiction entre la communication politique et les politiques publiques, là, on a maintenant un certain nombre de responsables socialistes qui réclament une inflexion à gauche, une politique plus sociale, alors même que le gouvernement s'apprête à annoncer 50 milliards d'euros de coupes dans les dépenses publiques, c'est-à-dire, évidemment, des restrictions supplémentaires qui ne risquent pas de remobiliser l'électorat de gauche autour du Parti socialiste.
Pour finir, Gilles Balbast.
Oui, juste pour finir, il y a une directive qui est négociée à Bruxelles qui va renforcer le contrôle sur les travailleurs détachés. Hein ? Sapin est revenu de Bruxelles en roulant des mécaniques en décembre en disant, grâce à la France, on va renforcer les contrôles. En même temps, Sapin vient de passer le 21 mars en force un décret qui va réformer l'inspection du travail, qui va diminuer de 19 postes dans le Nord-Pas-de-Calais le nombre d'inspecteurs du travail, qui serait nécessaire pour contrôler les travailleurs détachés. Vous ne trouvez pas qu'il y a une contradiction entre un sapin qui roule des mécaniques, d'un côté en disant on va renforcer les contrôles, et de l'autre, pour des politiques d'austérité budgétaire, va supprimer des agences d'inspection du travail, va supprimer des inspecteurs du travail, donc va empêcher, si vous voulez, les contrôles sur ces travailleurs détachés. Là, on est vraiment dans le cœur de la politique. Quand vous voyez des contradictions à ce point, quand vous voyez des effets de manche de communication et une réalité, mais ça va coincer au bout d'un moment. Alors, les médias n'en parlent pas souvent de ça, mais les gens le vivent sur le terrain.
Gilles, puisqu'on en est là, et pourquoi est-ce que les gens, là, vous venez de dire les gens, pourquoi est-ce que les gens sont allés plutôt vers le Front National que vers le Front de Gauche pour cette élection ?
Bon, alors, Dunkerque, le Front de Gauche était avec Delbarre, dans la même liste, au premier tour. Peut-être c'est le début d'une explication, si vous voulez, d'une lisibilité ou d'un choix. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est violent quand même pour des travailleurs, pour des salariés, ceux qui vivent. C'est violent. D'abord, vous avez 15% de chômage dans la ville. En plus, vous voyez 70 à 80 Polonais tous les jours à côté de vous qui vont empêcher votre fils, votre cousin, quelqu'un de votre famille de rentrer dans cette boîte comme ça se faisait avant. Donc d'avoir du travail. Ils vont voir leurs enfants encore plus au chômage. Et à ce moment-là, ben, cette dureté, cette violence, ça va pas se traduire par des choses raisonnées. Effectivement, on va essayer un parti qui n'a pas été mouillé dans toutes ces politiques-là. Et la majorité, c'est l'abstention. Il faut arrêter. C'est pas uniquement le vote FN, c'est l'abstention. À Lille, moi, la ville où je vis, il y avait 55% d'abstention et 5% de butins blancs et nuls. Donc vous voyez, ce sont des réponses, à mon avis.
À droite, on n'aime pas trop partager. On préfère assumer tout simplement qu'on est radin. À gauche, on est tellement gentil, on voudrait tout partager, mais surtout l'argent des riches. À droite, on pense que sur la planète, la vie n'est pas possible sans la bourse. À gauche, on n'est pas d'accord, mais on n'a pas de meilleure idée. C'est peut-être pour ça qu'on en conclut que la planète est déjà foutue. À droite, on pense que si la planète craque, eh ben c'est de sa faute, elle avait qu'à être plus performante. À gauche, on n'est pas d'accord, mais on n'a toujours pas d'idée. Qu'on nous donne le pouvoir et sûrement on en aura une.
Ah non ! Ah ouais, d'accord, ouais.
À droite, on pense que les chômeurs, ils devraient pas fumer. Ça donne le cancer, et le cancer, il faut l'interdire à ceux qui peuvent pas se payer eux-mêmes leurs chignots et leurs perruques. À gauche, on pense que le cancer, ça doit être accessible à tous. Sinon c'est contraire au principe de l'égalité, qui est à la base de nos valeurs républicaines.
Alors on continue avec le diplôme de ce mois d'avril. Et on va continuer avec la politique française, mais cette fois la politique française internationale, étrangère, Anne-Cécile Robert. Et en gros, pour résumer un petit peu votre papier, vous nous dites que, au fond, la France est devenue le caniche à la place du caniche.
Oui, un nouveau caniche. On était habitué à ce que ce soit le Royaume-Uni, ouais, soit un peu le caniche des États-Unis. Et là, on voit la France dans un rôle qui est assez inédit pour elle, hein, puisqu'on était habitué aux postures gaulliennes, à cette idée qu'il y avait une autre voie possible pour la France et même pour l'Europe. Et là, on a avec François Hollande, Laurent Fabius, dans la lignée de ce qui s'était fait déjà sous Nicolas Sarkozy et peut-être même finalement de ce qui avait commencé avec François Mitterrand, une espèce d'alignement de la politique française sur la politique des États-Unis, ce qu'on appelle l'atlantisme, c'est-à-dire que finalement, il n'y a pas d'identité particulière de la diplomatie française. Il y a la France dans le monde atlantique, dirigée par les États-Unis, et on suit le mouvement. Et on voit par exemple avec l'Ukraine, avec la Syrie, que ce que fait la France, c'est non pas défendre même pas les intérêts de la France, mais même pas les intérêts de l'Europe non plus, suivre ce qu'a décidé Barack Obama, ce qu'ont décidé les États-Unis. Et en l'occurrence, c'est ce qu'ils ont décidé, c'est de repousser la Russie. C'est de contenir la Russie, comme on disait du temps de la guerre froide, où il y avait la politique de l'endiguement. On est tous derrière cette politique-là, sans réfléchir à savoir si c'est vraiment l'intérêt de l'Europe et aussi l'intérêt de la France d'avoir cette politique de rejet de la Russie. C'est-à-dire qu'on voit bien l'intérêt des États-Unis. Eux, ils veulent être les dominants. Ils se sont débarrassés de l'Union soviétique. Il reste Moscou, reste Pékin, qui les embêtent, donc leur intérêt c'est de les contenir, de les diminuer. Donc l'intérêt américain il est clair, mais l'intérêt européen dans cette affaire et l'intérêt français est beaucoup plus énigmatique. Par exemple, est-ce que l'intérêt de l'Europe c'est de se fâcher avec la Russie ? La Russie, elle est sur le continent européen, c'est un fournisseur, on l'a beaucoup dit, d'énergie, pétrole, de gaz. Est-ce qu'on n'aurait pas plutôt intérêt en tant qu'Européens à trouver un accord avec les Russes ? C'est la position d'Angela Merkel, d'ailleurs. Hein. C'est la position de l'Allemagne, qui est beaucoup plus modérée que Laurent Fabius et François Hollande, en disant bon bah qu'on apprécie ou non le régime russe, on ne peut pas faire autrement. Les Russes sont là. D'ailleurs, la plupart des analystes se trompent en disant que le problème de l'Ukraine, c'est Vladimir Poutine. Ce qui se passe en Ukraine, ça a très peu à voir avec Vladimir Poutine, ça a à voir avec la Russie. Je veux dire, ce serait un autre dirigeant que Vladimir Poutine, on aurait le même problème. Il y a les intérêts de la Russie, ses intérêts géopolitiques, qui sont une donnée à prendre en compte. C'est-à-dire, depuis 20 ans, les Russes subissent finalement la recomposition géopolitique. On a redécoupé les frontières, il y a eu l'éclatement de la Yougoslavie, l'éclatement de la Tchécoslovaquie. Et finalement, quand on regarde, le monde atlantique dont l'Union européenne est un prolongement est arrivé aux portes de la Russie. Donc c'est pas vraiment étonnant qu'il s'énerve à Moscou. Et quand on dit l'Union européenne, c'est-à-dire Washington, c'est-à-dire l'OTAN, c'est-à-dire non seulement des intérêts économiques, mais des intérêts militaires. Donc on a cette espèce d'ensemble atlantique qui arrive jusqu'aux portes de Moscou et qui ne peut être que mal vécu par Moscou. Donc, au lieu d'être dans une politique d'agression, c'est ce que dit Olivier Zajec dans le papier de ce mois-ci dans le Diplo, il parle de l'obsession anti-russe. Il dit les diplomates occidentaux, au lieu d'être obsédés contre Moscou, il ferait mieux de voir la réalité géopolitique telle qu'elle est et trouver au moins, sinon un accord, au moins un lieu de concertation avec Moscou pour essayer de stabiliser la géopolitique de l'Europe centrale, puisque de toute façon, la Russie aura des intérêts dans la zone. Et dans le papier que j'ai écrit, je montre que la France, qui a été pendant longtemps la porte-parole, non seulement d'une troisième voie pour elle sur la scène internationale, mais l'idée d'une Europe européenne, a complètement abandonné ce rôle. Et que du coup, il n'y a plus personne qui parle, c'est-à-dire non seulement pour la France, mais pour l'Europe non plus. Plus personne ne défend les intérêts d'une Europe européenne, et plus personne ne défend l'idée qu'il y a autre chose que ce monde atlantique, dirigé par les États-Unis ayant leurs propres intérêts, mais ce n'est pas forcément les nôtres.
Je suis pour qu'il y ait une négociation qui s'ouvre pour lutter contre un certain nombre de freins aux échanges, de façon à favoriser la croissance.
On continue avec le Diplo du mois d'avril, avec Serge Halimi qui a consacré un long papier à la Tunisie, et la Tunisie qui s'est donné une nouvelle constitution qui a l'air assez modérée, Serge Halimi. Et puis on a vu le recul un peu des Nardas qui posait tellement de problèmes et qui était une sorte d'épouvantail. C'est quand même pas mal de voir que ce pays est dans un processus, alors que les autres révolutions arabes qui ont tellement enchanté les médias ont des développements assez décevants, disons.
Disons qu'avec le coup d'État militaire en Égypte, la guerre civile en Syrie, l'immobilisme politique en Algérie, dont on va nous parler Jean-Pierre Séréni tout à l'heure, et dans les monarchies du Golfe, évidemment la situation dans les pays arabes est assez sensiblement en retrait sur les espérances que la plupart d'entre nous entretenions il y a 3 ans. Alors naturellement, on cherche quelque part quand même un motif d'espérer. Et justement, la Tunisie, qui avait connu l'année dernière une période très difficile avec l'assassinat de 2 dirigeants de gauche en moins de 6 mois, semble connaître depuis quelques mois une forme d'apaisement, ce qui suscite un réel soulagement là-bas. Vous l'avez dit, une nouvelle constitution a été adoptée en janvier dernier. Elle a été adoptée massivement par 200 voix sur 216. Ça veut dire que la plupart des forces politiques de la Tunisie l'ont acceptée. C'est un bon texte qui ne remet en cause aucun des acquis progressistes de la constitution de Bourguiba en 1959 en matière de liberté de conscience, de séparation entre religion et État, d'égalité homme-femme. Et en plus, cette constitution comprend un certain nombre d'avancées démocratiques, une présidence moins puissante, un meilleur équilibre des pouvoirs, des instances de contrôle indépendantes. C'est donc un premier acquis important qui a été réalisé de manière assez largement consensuelle, puisque presque tous les députés ont voté cette constitution. Et puis le deuxième acquis, c'est que les islamistes des Nardas, qui étaient devenus de plus en plus impopulaires, ont accepté de quitter le pouvoir. Rien ne les y contraignait, ils n'avaient pas perdu les élections. Ils ont accepté de quitter le pouvoir et ils soutiennent un gouvernement qu'on qualifie d'apolitique, mais qui est pour l'essentiel composé de technocrates plutôt libéraux. Et c'est ce gouvernement qui va préparer, organiser les prochaines élections qui auront lieu à la fin de l'année. Donc on peut dire qu'en apparence, tout va bien.
En apparence.
Voilà, en apparence. Parce que pendant que les partis se sont affrontés depuis près de 3 ans sur des questions relatives à la place de la religion dans la société, aucune des aspirations sociales qui étaient à l'origine du soulèvement tunisien, ça a été ça tout de même le soulèvement tunisien, ça a été des jeunes sans travail qui protestaient contre un mode de développement qui ne leur permettait pas de vivre, eh bien aucune de ces aspirations sociales n'a été résolue, au contraire. La situation économique est plutôt plus mauvaise qu'il y a 3 ans. L'État s'est affaibli. La contrebande se sont généralisées au point qu'on dit que maintenant l'économie informelle représenterait plus du tiers de l'économie nationale, ce qui est énorme. C'est évidemment une perte de recettes fiscales calamiteuse. et tous les problèmes qui vont avec, les trafics d'armes, de devises, etc.
À quoi s'ajoute l'explosion de la Libye voisine?
Voilà, alimentée par l'explosion de la Libye voisine. Or, quel est le cap que se fixent les grandes forces politiques tunisiennes maintenant qu'elles ont apparemment réglé le problème constitutionnel? En quoi ces grandes forces, qui sont donc composées à la fois de la droite islamiste d'Ennahda, des héritiers de Bourguiba, mais aussi des héritiers de Ben Ali, qui sont dirigés par un homme assez âgé et charismatique, l'ancien Premier ministre Béji Caïd Essebsi, qu'on appelle BCE pour faciliter les choses, et troisième force, la gauche, en quoi ces trois forces-là se distinguent-elles sur les questions économiques? Lorsqu'on parle des deux principales, d'Ennahda et du parti dirigé par Caïd Essebsi, BCE, la réponse est simple, ils ne se distinguent pas vraiment. Et cela va peut-être vous rappeler quelque chose. Là, les deux principaux partis ne proposent que de continuer les politiques libérales de Ben Ali, politiques libérales...
Qui sont à l'origine de la révolution.
Qui sont à l'origine de la révolution et qui avaient été, vous vous en souvenez, salués par le FMI et par Dominique Strauss-Kahn. On a encore le son, etc., de Dominique Strauss-Kahn expliquant devant Ben Ali, je le cite...
L'économie tunisienne va bien, malgré la crise. La politique économique qui est conduite est saine. Et je pense que c'est un bon exemple à suivre pour beaucoup de pays qui sont des pays émergents, comme la Tunisie.
C'est ce qu'il a dit en novembre 2008. Eh bien, les deux principaux partis veulent poursuivre ces politiques. Pas tout à fait quand même, parce qu'ils veulent les débarrasser de la part de népotisme et de corruption qu'elles contenaient du temps du dictateur, dont 550 propriétés immobilières, 48 bateaux et yachts, 367 comptes bancaires et près de 400 entreprises ont été confisquées. Et je crois que là, il faut s'arrêter un instant là-dessus, parce que la semaine dernière, il y a eu un rapport de la Banque mondiale, qui elle aussi avait salué en son temps le modèle économique de Ben Ali, et qui a estimé que du temps où il était à la tête du pays, le clan possédait 3% de la richesse du pays et se répartissait 21% des profits des entreprises privées. Un résultat quand même assez magnifique.
Ce qui satisfaisait les centaines d'entreprises françaises installées en Tunisie.
Oui, mais qui satisfaisait encore plus le clan, qui faisait la loi évidemment à son avantage. Le nom du rapport de la Banque mondiale sur la période Ben Ali, je vous cite, c'est « Tout reste dans la famille, la capture de l'État en Tunisie ». Pourtant, ni les islamistes, ni Béji Caïd Essebsi, l'autre grande force politique, ne proposent de rompre avec ce modèle. Et à vrai dire, lorsqu'on les interroge sur des dossiers aussi importants que celui de la dette extérieure, ben, ils sont d'accord. Lorsqu'on les interroge sur les subventions qui sont accordées à un certain nombre de secteurs, dont l'énergie, ils sont d'accord pour ne rien remettre en cause. Ils ne réclament ni un abandon, ni une renégociation de la dette tunisienne, ni la remise en cause de certaines de ces subventions qui vont à des entreprises qui n'en ont absolument pas besoin. À vrai dire, Ennahda, comme les islamistes, les frères musulmans, n'ont pas vraiment de projet économique. On a vu là-bas un responsable qui nous disait « Oui, nous, on n'a pas réfléchi aux questions économiques, mais comme on a été au gouvernement, on a été obligé de découvrir en quelque sorte que ça existait. » Mais quand vous lisiez le programme économique d'Ennahda, vous aviez des phrases du genre « Il faut créer de nouveaux marchés pour nos biens et services, il faut simplifier les procédures, il faut diversifier les investissements vers des projets plus utiles », enfin de très grandes généralités, qui étaient uniquement assaisonnées de formules plus pieuses, plus religieuses, du type « faire revivre les valeurs vertueuses issues de l'héritage culturel de la société tunisienne, de son identité arabe et islamique, valeurs qui honorent l'effort et le travail de qualité ». Et de son côté, le patronat tunisien, qui est à l'heure actuelle très étroitement associé au gouvernement, utilise tout le jargon des business schools. Quand vous regardez ce qu'il recommande, il veut, je cite, « faire le rebranding de la marque Tunisie ». Promouvoir la Tunisie digitale comme destination des investissements high-tech, affirmer l'offshoring comme une priorité nationale créatrice de valeur ajoutée et d'emplois. Nous, quand on parle d'offshoring, on ne pense pas à une création d'emplois, on pense davantage à des paradis fiscaux. Le patronat tunisien estime également que l'existence, je cite, d'un pool de compétences disponibles et d'une proximité géographique et culturelle avec l'Europe constitue des avantages compétitifs déterminants. En d'autres termes, c'est le modèle ancien qui consiste à insérer la Tunisie dans la division internationale du travail en jouant sur des coûts salariaux très faibles et sur la proximité avec l'Europe. Eh bien, toutes ces politiques dont on sait qu'elles n'ont pas donné de bons résultats, elles ont même donné de très mauvais résultats, puisque le pays est très largement divisé entre les régions marginalisées de l'intérieur, depuis très longtemps, et qui le sont restées, marginalisées, et une vitrine maritime vers laquelle se dirigent la plupart des investissements. Et au total, on peut dire que la révolution tunisienne, à l'heure actuelle, n'a pas été une révolution. Elle a certes débarrassé le pays d'un dictateur, et ça n'est pas rien. Et il y a effectivement une très réelle fierté nationale des Tunisiens quand ils évoquent le fait qu'ils ont été à l'avant-garde.
La vie a changé, la vie quotidienne.
La vie a changé sur ce plan. Donc ils ont débarrassé le pays d'un prédateur, et ça n'est pas rien. Mais ce changement ne s'est pas encore accompagné d'une remise en cause du modèle économique et social, dont l'échec avait pourtant expliqué le soulèvement d'il y a 3 ans. Et je dirais pour conclure que si l'Europe et la France voulaient vraiment aider la Tunisie, il leur suffirait d'oublier les potions amères du Fonds monétaire international et de renoncer par exemple au remboursement de la dette tunisienne, ce qui ne serait pas négligeable. Et ce qui permettrait au pays d'obtenir un véritable ballon d'oxygène.
Une dette contractée par le régime précédent, celui de Ben Ali, en grande partie.
Oui, par le régime de Ben Ali, et parfois pour s'enrichir lui-même.
Et les siens.
Et les siens.
Et ça court.
Donc si la Tunisie n'avait pas à rembourser une partie importante de cette dette, si la plupart de ces sommes lui étaient retournées ou ne lui étaient plus réclamées, je crois que ce serait un formidable ballon d'oxygène qui permettrait au gouvernement d'investir dans les régions de l'intérieur, là où ont démarré les révoltes arabes il y a plus de 3 ans.
كلمة تلم صادقة كانت طالعة من القلب وصيفي بنت الخايفة تكسر قضبان السجن تمشي في أحسن درب تنسى الرهبة والكرب مظلوم ما محروم ماضي ما خشى في حرب مع مجتمع مش راضي ما بشتغلت فيه بجد حط نفسه هو القاضي عليها وما ضرت حد طموح أحلام هذه ديروا لها حد أختي بنتي وصاحبتي نوضي ما تقوليش تعبتي أنت اللي لازم تبدي وإحنا ديما معاك الحق
On continue avec le diplôme du mois d'avril. Après la Tunisie, hop, l'Algérie, on passe à côté. Là, on a des élections très bientôt. Et ça, ça vous intéresse beaucoup, ces élections. Jean-Pierre Sereni, vous avez la chance, comme journaliste, d'aller en Algérie, d'avoir un visa, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de journalistes. Faut rappeler, ça c'est quand même important sur comment décrire l'Algérie, ce qui s'y passe. C'est très difficile d'avoir des visas. Lorsqu'on en a comme journaliste, on est contrôlé, surveillé de façon permanente par la sécurité militaire, ce qui fait que c'est un pays difficile à décrire. Mais vous avez eu la chance.
Alors j'ai eu effectivement la chance d'avoir un visa, mais c'était peut-être un effet de rattrapage parce que l'année dernière, j'avais eu aussi un visa, mais au bout de 4 jours, j'ai été viré. Donc peut-être qu'il y avait un élément de rattrapage qui a joué et qui a permis que j'ai un visa. Mais j'ai eu un visa sur une date que je n'avais pas choisie et pour une durée que je n'avais pas choisie. Donc vraiment, j'ai été obligé de me débrouiller avec. Cela dit, les élections...
Situation désespérée, l'Algérie. Il y a un reportage de Dôme sur une ville du sud de l'Algérie.
Ah, là, oui. Oui, enfin, désespérée et pas désespérée. Enfin, c'est une situation quand même assez ambiguë. Mais ce qui est important là, bon, c'est les élections, puisque c'est ça qui monopolise l'attention. En réalité, c'est un non-événement. Dans la longue tradition électorale algérienne, où les coups fourrés, les trucages sont vraiment une tradition et une habitude, on est en train de faire très fort. Parce que le principal candidat, celui qui va être élu, est invisible. Par exemple, dans le mois de mars, on l'a vu 2 fois, 14 secondes la première fois, 15 secondes la deuxième fois, à la télévision. Et le deuxième absent, c'est les électeurs. Dans les meetings, il n'y a personne. On est obligé de payer des gens pour remplir les salles. Il y a même des salles qui sont remplies par des gamins. Donc ça montre quand même que la population a bien conscience que c'est pas là que ça se passe. Ce qui va être l'événement, c'est la disparition de Bouteflika, qui évidemment est à l'ordre du jour compte tenu de sa situation physique. Donc, si vous voulez, tout le monde attend le prochain round qui va être comment et qui impose le successeur de Bouteflika. Et alors, par rapport à ça, si vous voulez, l'Algérie actuellement, il faut bien comprendre, est dans un phénomène de croissance démographique accélérée. Il y a eu plus d'un million de naissances en 2013, c'est-à-dire qu'actuellement, il naît plus de jeunes Algériens que de jeunes Français. Hein. On voit dans 30 ans quel sera le rapport des forces démographiques entre les deux rives de la Méditerranée. Et par rapport à ce phénomène démographique, on a une politique économique qui ne réussit pas à donner des emplois qui correspondent à ce que les gens attendent, dans la mesure où il y a aussi plus de 2 millions ou 1 million et demi d'étudiants. Donc, si vous voulez, il y a un mismatch entre les emplois qui sont offerts, qui sont plutôt des emplois de journaliers ou de tâcherons dans le bâtiment, et d'autre part, les attentes des jeunes, de cette jeunesse très nombreuse et très forte, qui veut vivre comme on voit la vie aujourd'hui à la télévision, et Dieu sait s'ils regardent la télévision. Donc, par rapport à ça, si vous voulez, on a eu une politique qui a été une politique très dynamique dans la mesure où l'Algérie a eu énormément d'argent. Elle a bénéficié du boom pétrolier des années 2000 et le régime a dépensé, on estime à peu près 800 milliards de dollars. Je sais pas, ça fait à peu près 20 fois le PIB tunisien. Donc on voit l'importance de la somme. Alors évidemment, le gaspillage, la corruption, tout ce que vous voulez à peser sur ces sommes, mais il n'empêche, ça fait quand même des dépenses publiques, ça fait des infrastructures, ça fait des autoroutes, ça fait des routes, ça fait des ports, ça fait des aéroports, ça fait une construction qui explose absolument, et ça fait une classe moyenne qui commence à se développer. On achète à peu près le tiers de voitures en Algérie par rapport à la France, donc ça commence à devenir un énorme marché automobile. Les gens dans les grandes villes ont des climatiseurs. Donc il y a une classe moyenne qui se développe. Et cette classe moyenne, elle a des attentes. Elle veut, par exemple, être bien soignée. Donc vous avez un développement des cliniques privées qui est absolument considérable. Il y a plus de 150 cliniques qui sont actuellement en construction, alors que les hôpitaux publics sont dans un état délabrement extraordinaire. Je cite dans mon papier une émission de télévision, un des rares plateaux ouverts sur une chaîne privée où il y avait une députée du FLN qui vantait Bouteflika, et il y avait en face un docteur, une femme, qui était gynécologue et qui était à la tête de ce qui va devenir le mouvement Barakat, et qui expliquait que on était obligé dans les hôpitaux algériens, dans les maternités, de mettre deux femmes dans le même lit, alors que Bouteflika était au Val-de-Grâce traité comme il a été traité. Donc, si vous voulez, il y a une force de revendication qui fait qu'il y a des éléments de changement très importants dans la société et qu'il y a un peu un paradoxe entre un régime politique immobile qui ne bouge pas, qui se maintient dans l'autoritarisme et qui cherche simplement à continuer comme avant, mais qui bute sur un problème, c'est qu'ils ne sont pas d'accord sur qui va succéder à Bouteflika. Et de l'autre côté, une société qui aspire à un changement de vie, et qui surtout, j'étais pas allé en Algérie depuis 3 ans, moi ce qui m'a frappé c'est un peu le reflux de la religion. Il y a 3-4 ans, la religion était vraiment ce qui occupait complètement la vie quotidienne des gens. On discutait sur quel était le meilleur récitant du Coran dans telle mosquée ou telle autre mosquée. Là j'ai trouvé une atmosphère très différente, les gens sont sur leurs problèmes concrets, ils veulent que ça change, ils veulent que leurs besoins soient satisfaits, et ça c'est un élément de modernisation qui à mon avis est très important pour l'avenir.
Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a déposé son dossier de candidature pour la prochaine élection présidentielle.
Alors Jacques Testard, là on va parler de la PMA, la procréation médicalement assistée. Et votre papier est assez glaçant, parce que j'ai appris un truc, c'est que tous autant qu'on est là, tous les six là, on relève de la procréation aléatoire.
Bien sûr.
Mais j'avais jamais pensé qu'on procédait de la procréation aléatoire.
Ben évidemment, parce que pour faire un bébé naturellement, parce que ça se fait encore quand même, il y a plein de loteries successives qui font que les spermatozoïdes sont tous différents. Un homme en produit au moins 100 millions par jour, il n'y en a pas deux pareils. Donc tout ça à partir d'une loterie où l'ADN va être distribué différemment dans chacune de ces cellules. Pour les ovules, c'est la même chose. Ils sont beaucoup moins nombreux, mais ils sont imprévisibles. En plus, il y a des remaniements dans l'ADN qui font qu'il y a des choses nouvelles qui apparaissent. C'est en plus déjà de la loterie. Ensuite, il y a une loterie de la rencontre des gamètes. Quel spermatozoïde va rencontrer quel ovule ? Donc tout ça, c'est quelque chose de complètement imprévisible. C'est pour ça quand on dit, par exemple, qu'on pourrait sélectionner les enfants en sélectionnant les gamètes, ce serait plus éthique que de tuer des embryons ou des fœtus. C'est absurde. Donc on est effectivement tous des produits aléatoires. Et ce que je décris, c'est un scénario, effectivement, qui n'est pas très réjouissant. Mais
non.
Mais je décris pas ça pour glacer le sang des lecteurs, mais parce que je crois vraiment que c'est ce qui...
Non, mais jusque-là, c'était la science-fiction, quoi, le... L'homme-robot...
Oui, mais c'est... de ça, on parle beaucoup dans les médias. De l'homme-robot, du clone, l'homme transgénique. Je ne crois pas du tout que ce soit ça l'avenir de la procréation et l'avenir de l'humanité. Moi, je crois que c'est tout simplement de trier. Mais ce que je décris, c'est des recherches qui se passent actuellement dans des pays asiatiques, en Corée, au Japon en particulier. Ça se passe chez la souris, c'est de la recherche scientifique. Mais tout ce qui se passe chez la souris finit par arriver chez l'homme quand il y a une demande. Et là, vous allez voir qu'il y aura sûrement de la demande. Ils sont en train de fabriquer des gamètes, des ovules ou des spermatozoïdes à partir de cellules banales, de cellules de la peau, par exemple. Ça veut dire qu'ils peuvent en produire par milliers. Bon, l'homme, il produit, on l'a dit, beaucoup. S'il n'a pas un problème grave, il produit des millions de spermatozoïdes, c'est toujours en excès. Mais pour ce qui est de l'ovule, c'est toujours une cellule rare. Alors que là, on pourra produire, vraisemblablement, si ça fonctionne chez la souris, et ça a l'air d'être bien parti, pourra produire des centaines, des milliers d'ovules, dont autant d'embryons, en fécondant ces ovules. On est en train aujourd'hui d'avoir, pour 1000 ou 2000 euros, des méthodes qui vont permettre de faire l'analyse de tout le génome. Ça, c'est dans les mois qui viennent. C'est déjà quasiment fait. Et ça veut dire que si on a des milliers d'embryons, qu'on fait l'analyse de tout le génome, on est très discriminant. Et là, on peut vraiment retenir un embryon assez exceptionnel, ce qu'on n'aurait jamais pu faire, même avec l'eugénisme méchant qui tuait les enfants à la naissance, il aurait fallu que les gens vivent des milliers, des centaines de milliers d'années pour avoir cette possibilité d'obtenir l'enfant qu'ils souhaitent, en faisant un à la fois. Là, on va jouer sur un nombre très très important d'embryons, le but étant d'avoir un ou deux enfants, pas davantage, les gens n'en veulent pas plus, donc on va faire une sélection drastique. Quand on met les deux en rapport, on s'aperçoit qu'il y a une réponse à une demande potentielle. Alors la demande, elle n'existe pas. Les gens disent pas « faites-moi ça ». Mais il suffit de leur proposer et ils le demanderont. D'autant que, si vous voulez, ce qui freine pour le moment la sélection par cette technique qu'on appelle le diagnostic pré-implantatoire, ce tri d'embryons à partir d'une identification génétique, donc de leur génome. Pour le moment, ça exige une fécondation in vitro façon à la papa, je pourrais dire. Celle qu'on a fait depuis Amandine, bon, c'est toujours la même, c'est-à-dire stimuler la femme, lui faire passer plein d'examens, échographie, prise de sang, prélever ses ovules, tout ça est très pénible. Il n'y a plus besoin de ça, parce que dans ce scénario que nous préparent nos amis asiatiques, il y aurait un prélèvement d'un morceau de peau sur le bras, n'importe où, c'est rien du tout, quoi. Et à partir de ce, tout se fait en labo. Ensuite, on vient pour la transplantation d'embryons. Alors, qu'est-ce qui pourrait bloquer le développement de ces technologies ? Bon, d'une part, il n'est pas encore démontré que ça va marcher, c'est-à-dire qu'on n'aura pas des petites souris bancales, stériles, bon, c'est pas impossible. Mais j'ai confiance dans la technique pour penser qu'en quelques années, ça va s'arranger, qu'on va remédier à ça, un peu comme avec le clonage chez les animaux, où au début, ils étaient presque tous mal foutus, et maintenant, ça marche très bien. Donc, on va trouver ces recettes-là, et la question à poser, c'est qu'est-ce qui s'opposerait à ce que ça s'applique à tout le monde ? Parce que c'est l'intérêt, évidemment, de la société d'avoir des enfants qui soient pas malades. C'est donc l'intérêt de la sécurité sociale. C'est l'intérêt de l'industrie. C'est l'intérêt d'une société compétitive, forcément. Et c'est aussi l'intérêt des parents d'avoir des enfants qui soient plutôt en bonne santé. Je vois pas ce qui peut s'opposer à ce truc qui me paraît inéluctable et duquel on ne parle jamais. Comme je disais tout à l'heure, on nous parle de clonage, de transgénie. Mais tout ça, c'est des trucs pour romanciers. C'est amusant, mais c'est pas ça qui va nous tomber dessus. Bon, on me dit que j'ai un discours pessimiste, mais c'est...
Oh non !
Non, n'est-ce pas ? Oh non ! Mais je vois pas comment tout ça peut s'arrêter, sauf si on change complètement de société. On en revient à la
première. Ah bah voilà !
Si on change de société, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de croissance, qu'on n'a plus besoin de compétitivité, si jamais on remettait ça en cause fondamentalement et qu'on construise une société comme souhaitait Ivan Illich, convivial, où on pourrait très bien, des gens qui seraient stériles ou qui seraient homosexuels, pourraient sûrement trouver des complicités dans l'environnement pour avoir un enfant, mais sans passer par la case médecine. Donc, je pense que c'est vraiment un problème politique, au bout du compte. C'est une orientation de la société qui nous amène, encore une fois, dans le mur.
Merci, Jacques Testa. Et merci à tous. Alors là, on vous a fait un cadeau. La version intégrale de cet entretien est sur labas.org. Là, c'est une version pour les 52 minutes qui nous sont imparties. Mais la version en longueur, vous pouvez l'écouter sur labas.org, notamment, entre autres, les développements de Jacques Testard. C'était le diplôme du mois d'avril. Gilles Balbas, Anne-Cécile Robert, Serge Halimi, Jean-Pierre Sérigny. Merci aussi à Anne Calais-Chavanel. Nous avons des armes et cas d'école. C'est deux nouveaux films que prépare Gilles Balbastre et vous pouvez les soutenir en précommandant les films sur le site Nous avons des armes. Nous avons des armes, c'est nada-info.fr. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, là-bas si j'y suis, et sur le site là-bas.org ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Puis il y a un bouquin de Jacques Testard là, qu'on ne vous a pas mentionné, mais on le fera sur le site de France Inter. À la technique aujourd'hui, Nicolas Slimani et Pierre-Yves de Roulin. L'émission a été réalisée par Jérôme Chélius et Franck Adérer, préparée par Jonathan Duong et Stéphanie Fromentin. Attend comme ça chaque jour vos messages sur le répondeur de la base JSP au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37. On se retrouve demain à 15h pour la base JSP avec Frédéric Lordon. Figurez-vous, ça fait longtemps que vous demandez, on veut écouter Frédéric Lordon. Et bien, il va nous parler de l'Europe demain, Frédéric Lordon, avec son nouveau bouquin, La Malfaçon. Voilà, demain, 15h, on se retrouve donc. Dans l'immédiat, vous retrouvez Hervé Pochon, avec son temps de Pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de Pochon, mais ça ne va pas durer.
Bonjour. Qu'est-ce qui se passe ici?
Conférence de presse.
Ah bon?
Oui.
Sur quoi?
Sur les peupliers.
Ah ça c'est important ça. Il y a un problème avec le peuplier?
Demandez à monsieur.
Je vous remercie beaucoup. Bonjour à tous et bienvenue donc au Conseil national du peuplier. C'est sérieux. Bonjour monsieur, on m'a dit de venir vous voir parce que vous êtes le spécialiste du peuplier.
Ah, le spécialiste, parmi les spécialistes, je ne suis pas le seul spécialiste dans la matière.
Vous êtes nombreux à être spécialiste du peuplier?
Oui, alors moi c'est plutôt la spécialité de l'industriel. À côté de moi, vous avez le spécialiste de la populiculture, et puis un autre, M. Vendrome, qui est plutôt spécialiste des pépinières.
Et alors, quel est le problème du peuplier?
Le problème, c'est qu'on ne replante pas assez.
Mais le peuplier n'a pas bonne presse, hein, si je puis dire.
Si, pourquoi il n'aurait pas bonne presse?
J'ai encore croisé ma voisine ce matin, et je lui ai dit que je vais à la conférence du peuplier. Elle m'a dit, ah non, j'aime pas les peupliers, c'est moche.
Mais vous savez, vous avez des tableaux de Cézanne qui étaient faits de peupliers. Vous savez que la Joconde a été peinte sur un tableau de peupliers. Et puis, dans votre quotidien, vous utilisez du peuplier dans les cajous en bois, les petites cagettes pour le fromage, les fruits et légumes, les tables de ping-pong, les raquettes de ping-pong, tout ça, c'est fait en peuplier.
Ah oui, voilà.
Ah oui, il y a beaucoup d'utilisation. Si vous partez en vacances, vous prenez peut-être la caravane, peut-être que vous prenez le camping-car. Les aménagements intérieurs sont faits en peuplier.
Toujours.
Pratiquement toujours, parce que c'est un bois très léger. Donc, ses qualités sont très reconnues comme cela.
Donc, il faut planter du peuplier, quoi.
Ah, il faut en planter, et surtout en replanter. Nous, on est pour la gestion durable de la forêt, et il est très important de replanter pour les générations à venir. Nous, on ne travaille pas pour nous. Un peuplier, ça met 20 ans à arriver à maturité. Et c'est un bois qui se déroule. Vous avez des bois qui se scient, le chêne, le hêtre se scient, alors que le peuplier se déroule. C'est-à-dire que vous prenez l'exemple d'un taille-crayon, et puis vous avez une lame, une contre-lame, et vous sortez du plaquage comme ça. Puis son gros avantage, c'est qu'il pousse très très vite. Et c'est pour ça qu'on l'appelle l'arbre du 21e siècle. Parce qu'on a beaucoup d'arbres, il faut mettre à peu près un siècle pour en tirer les bénéfices. Alors que le peuplier, je vous dis, en 15-20 ans, vous pouvez avoir un arbre et l'utiliser pour faire du meuble, pour faire des cuisines, des échafaudages, des cagettes, du bardage, etc. De la construction bois aussi à partir du peuplier.
Et alors votre nom?
Hervé Drouin.
Et votre titre?
Alors moi, je suis responsable d'une entreprise industrielle de contreplaqué dans la Sarthe. Je suis vice-président du Conseil national du peuplier et je suis membre aussi de la Fédération nationale du bois.
Vice-président, excusez-moi, je ne savais pas que c'était quand même vice-président.
Bah écoutez, en fait, j'étais avant président et maintenant mon collègue Éric Vendrome est le président, donc je suis passé vice-président. Mais voilà, on se partage les tâches.
Ah oui, parce que là, vous allez peut-être être vexé, j'ai parlé avec le vice-président, excusez-moi.
Non, bonjour à vous. Oui.
J'ai fait une faute professionnelle. Mais,
on n'en veut à personne, rassurez-vous.
Bon, c'est gentil. Voilà. Mais j'ai quand même une question. Pourquoi, si le peuplier a autant de vertus, monsieur le président, pourquoi les gens n'en plantent pas plus ?
Il y a un petit peu un effet de communication dans le monde, on va dire, forestier, où les gens l'ont un petit peu délaissé depuis une quinzaine d'années, et puis donc ça s'est un petit peu endormi, mis en sommeil. Et en fait, non, ça devrait, à notre sens, rebondir assez vite maintenant, parce qu'on identifie déjà qu'il va y avoir une demande en bois qui va augmenter. Aujourd'hui, notre rôle, c'est de donner la vraie information, comme quoi le peuplier, c'est un arbre très utile, et que la rentabilité pour les propriétaires qui vont investir dedans, elle sera très satisfaisante. Pour nous, l'enjeu, il est vraiment celui-là, c'est une peuplerie qui est récoltée doit être replantée. Et si on atteint cet objectif-là, notre filière va bien fonctionner en France. Et elle, bon, aujourd'hui, elle est à peu près à pratiquement 20 000 emplois entre les emplois directs et les emplois induits. Donc 20 000 emplois aujourd'hui en France, ça, c'est quand même pas rien, quoi.
Là, ici, on est au bureau du Conseil national du peuplier.
Voilà, c'est ça. Donc le Conseil national du peuplier, c'est l'interprofession. Donc l'interprofession regroupe tous les membres de la filière, un petit peu comme une chaîne qui s'enchaîne, c'est le cas de le dire.
Il ne faut pas dire chaîne quand on travaille sur le peuplier, là, c'est de faute.
Oui, mais là, comme si on peut dire. Et comment dire ? Donc le Conseil national du peuplier regroupe les pépiniéristes, les industriels, les propriétaires forestiers et la recherche. Donc on associe vraiment toutes les compétences pour porter un message collectif. Il y a des symboles aussi autour du peuplier. La boîte à camembert, le camembert c'est un produit de terroir, le camembert de Normandie si j'en parle, c'est emballé avec du bois de peuplier. Et même la FAO, une organisation internationale, considère que le peuplier est l'arbre du 21e siècle. Et elle a même une commission qui se réunit tous les deux ans, qui ne traite que du sujet peuplier parce que la FAO considère que le peuplier, pour l'humanité, ça peut être aussi important que la pomme de terre, que le riz, que le blé, pour les populations disséminées sur la planète.
Et vous faites exprès d'organiser votre Conseil national du peuplier le 1er avril ?
Ah, ça, c'est une. On peut considérer que ça peut être une plaisanterie, mais on est très sérieux malgré tout.
Alors, voilà. Je vous crois. Bon, bah, je vous laisse commencer le Conseil national. Monsieur le Président du Conseil national du peuplier, j'ai l'impression qu'il n'y a que France Inter qui est venue. Vous n'êtes pas un peu déçu ?
Non, mais parce que vous êtes les meilleurs.
Je vous remercie, ça sera le mot de la fin.
Un temps de pochon, c'est terminé et on se retrouve demain.
Vous écoutez France Inter, il est encore 16h. Les informations, Dominique Delaroy.
Jean-Marc Ayrault a quitté Matignon. Emmanuel Valls a pris ses nouveaux quartiers. La passation de pouvoir avec le nouveau Premier ministre aura duré quelques 40 minutes. Passation à laquelle vous avez assisté, Marion Lagardère.
Oui, Jean-Marc Ayrault est allé accueillir Manuel Valls à sa voiture, hein, sans un mot, la mine grave, crispée, le sourire figé, visage très froid aussi pour Manuel Valls. Hein, on sait qu'ils ne sont pas proches, mais là, clairement, les deux hommes n'ont pas cherché à jouer la complicité. Ils sont ensuite montés dans le bureau du chef du gouvernement. Un entretien court de 20 minutes et en sortant, c'est Jean-Marc Ayrault qui a pris la parole en premier.
Une nouvelle étape commence. Le président de la République a décidé de vous nommer Premier ministre. C'est une tâche éprouvante, exigeante de tous les instants, mais en même temps exaltante.
Il a ensuite souligné l'énergie et le talent de son successeur, puis a salué les collaborateurs et les personnels de Matignon avant de souhaiter bon courage à Manuel Valls et de lui passer la parole.
À vous, à Brigitte, votre épouse, à tous vos proches, à vos collaborateurs, très sincèrement, je veux vous remercier et je ne doute pas là aussi que nous vous retrouverons dans toutes les batailles que nous avons ensemble à livrer pour notre pays. Cher Jean-Marc, merci beaucoup.
Jean-Marc Ayrault, qui est parti avec son épouse Brigitte, hein, sous les longs applaudissements des personnels de l'hôtel de Matignon, une ovation après laquelle Manuel Valls est tout de suite monté prendre ses quartiers dans ses nouveaux bureaux pour continuer la composition de son futur gouvernement. À Matignon, Marion Lagardère, France Inter.
Et la composition de ce nouveau gouvernement sera connue demain. On sait déjà en tout cas qui sera la directrice de cabinet de Manuel Valls. Il s'agit de Véronique Bédague-Amilius, une énarque de 50 ans, également diplômée de Sciences Po et de l'ESSEC. Elle a exercé diverses responsabilités responsabilité, au ministère de l'économie avec Laurent Fabius, au Fonds monétaire international à Washington ainsi qu'à la mairie de Paris. Les marins de la SNCM ont repris le travail après 7 jours d'une grève qui a paralysé le trafic de la compagnie maritime en grande difficulté. Ils ont obtenu des assurances sur leur avenir. Les incidents contre les médecins à la hausse, plus 16% en un an selon le Conseil national de l'Ordre des médecins qui a recensé 925 déclarations d'incidents. La plupart du temps, il s'agit d'agressions verbales ou de menaces, mais 11% sont des agressions physiques avec coups et blessures et les généralistes sont en première ligne. Enfin, David Douillet, le député UMP des Yvelines et ex-champion olympique de judo, légèrement blessé, il a été percuté alors qu'il circulait à moto au Mureau. L'automobiliste qui avait pris la fuite a été interpellé.
One, two. Mes chers auditeurs,
tous les samedis à 21h,
vous connaissez tous le crochet radiophonique.
On a les moyens de vous faire chanter.
On y va ?
France Inter réinvente le radio crochet.
Ok, je suis prêt.
Avec Vali et Didier Varro.
Cette semaine, retrouvez deux des 14 artistes que vous avez sélectionnés.
Hello, bonsoir.
Venez départager deux artistes au style diamétralement opposé.
Ici Martin Rhein.
Nous sommes Arcadin. On est très contents de participer à ce radio crochet de France Inter.
Ils s'affronteront pour la première fois devant le public du studio 106.
Non, c'est.
Et le jury.
Alors, jury.
Il faut choisir, malheureusement.
Je suis sous le charme.
Pour assister à l'enregistrement de l'émission,
rendez-vous ce soir à 18h30 devant la porte B de la Maison de la Radio.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
On a les moyens de vous faire chanter. Le Radio Crochet de France Inter en partenariat avec la SACEM et la FNAC. France Inter.
La voix est libre.
Et on approche des 16h05. Il est grand temps de retrouver Frédéric Ledéon. Bonjour.
Bonjour Dominique Delaroy. On vous retrouve à 17h, vous pour de nouvelles informations.
Carrefour de l'Odéon.
Bonjour à vous, ce n'est pas un poisson d'avril, on ne trouve plus beaucoup de journaux. Exemple, moi je vais très souvent à pied de chez moi à la maison de Radio France ou maintenant France Inter, c'est un petit peu à côté. Et puis, quelquefois je prends le bus ou bien le métro. Et bien, autrefois, il y a encore quelques années, il y avait 3 points de vente pour la presse, donc pour les journaux, pour les magazines. Maintenant, plus aucun depuis 2 semaines, donc c'est très difficile. Alors, on avait déjà eu cette alerte avec les disques, j'avais dit que les disques CD étaient un peu plus rares à un moment donné. Ils refleurissent maintenant, on est très très content, mais les journaux, ben, ça commence à être dur parce qu'il faut faire des détours maintenant pour trouver les journaux ou les magazines. C'est pour ça que j'insiste sur notre partenaire Diapason, comme chaque mois d'ailleurs, puisque là il y a beaucoup de CD, de DVD, plus de 170 critiques, il y a des articles merveilleux, il y a des interviews bien sûr, en vedette et en photo sur la couverture, Anne-Sophie Mutter, la diva du violon, comme c'est écrit. Donc c'est une jeune femme qui a été découverte par Herbert von Karajan, elle était née en 1963, à 13 ans, elle joue avec Karajan du Mozart avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Bref, elle vit à 100 à l'heure depuis longtemps. Elle a beaucoup d'intelligence, beaucoup de charme. Elle est venue dans cette émission déjà plusieurs fois. On va lui rendre hommage en écoutant la belle Anne-Sophie Mutter dans Schön Rosmarin, le joli romarin de Fritz Kreisler. Thank you. Schöne Rosmarine, joli romarin de Fritz Kreisler, fameux violoniste viennois et compositeur aussi, forcément. On a entendu Anne-Sophie Mutter avec Lambert Orkis, pianiste avec lequel elle travaille depuis 1989. Un long partenariat et beaucoup, beaucoup d'enregistrements et des concerts, quelquefois un peu critiqués. On dit qu'elle cherche beaucoup, Anne-Sophie Mutter, peut-être trop, mais elle compare vraiment son violon à une palette, comme un peintre à une palette. Donc elle dit que, évidemment, c'est une voix humaine d'abord, le violon, mais ensuite le timbre doit présenter beaucoup de variété, beaucoup de diversité, comme un peintre recherche des nuances précises sur sa toile. Voici maintenant par les deux mêmes grands artistes, Gabriel Fauré, première sonate pour violon et piano.